Game Radio.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Game Radio, un rendez-vous hebdomadaire enregistré sans filet ce soir puisque nous sommes en direct sur le flux audio continu. Bonsoir et merci à tous ceux qui sont en train de nous écouter actuellement, vous êtes un certain nombre et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous d'être avec nous ce soir. C'est donc une nouveauté sur Game Radio, ça fait quelques jours maintenant qu'on essaye tant bien que mal de vous proposer un maximum d'émissions en live, que ce soit les émissions que nous avons consacrées à l'E3 ou plus récemment encore à la fête de la musique, c'était donc la semaine dernière, eh bien les podcasts hebdomadaires de la rédaction de Game Radio sont désormais eux aussi enregistrés en direct. Ça se passe comme ce soir le jeudi à 21h sur notre antenne. Et puis bien entendu par la suite vous pourrez retrouver cette émission sur le site dès le lendemain dans la journée. Et sur iTunes, ça bien évidemment, ça ne change pas. À mes côtés ce soir, pour animer cette émission, il y a Nico.
Salut à tous.
Salut Nico. Alors, est-ce que tu t'es bien remis de tes émotions récentes? Je rappelle que tu as rencontré Kojima il y a quelques jours.
Ça va. Il faut du temps quand même, mais bon, je me dis que ça sera la dernière fois, je pense que je le verrai, mais...
Ah, faut jamais dire jamais. J'ai le plaisir d'accueillir aussi ce soir... une nouvelle chroniqueuse, une nouvelle rédactrice sur Game Radio. Vous ne la connaissez pas encore. Moi-même, d'ailleurs, je la connais pas encore très très bien. Je vous demande d'être particulièrement gentil avec elle parce que ce sont ses premiers pas ce soir dans un podcast en direct, qui plus est. C'est un baptême. Elle se jette à l'eau ce soir. Elle s'appelle Abelia. C'est un très joli pseudonyme. Et je lui souhaite la bienvenue parmi nous. Bienvenue sur Game Radio.
Bonsoir à tous et merci de votre indulgence pour ce soir.
Alors, Abelia, j'aurais voulu que tu te présentes un petit peu rapidement, qu'on te connaisse un peu mieux. T'es une gameuse avant tout.
Alors oui, en effet, j'ai commencé assez tôt sur Amstrad avec les Simpsons. Et aujourd'hui, plutôt jeu d'aventure, donc Tomb Raider, Alone in the Dark, et puis en ce moment BioShock.
Et je crois savoir voilà. que tu as quelques LAN parties sur Counter-Strike à ton actif.
c'est entre midi et deux, entre amis, on s'amuse un peu sur Counter-Strike et voilà.
Ok. Alors dans ce nouvel épisode du podcast Game Radio ce soir, nous avons aussi le plaisir de recevoir des invités. C'est même essentiel, hein, puisque c'est un petit peu autour d'eux que nous allons articuler cette émission. Nous allons tout simplement faire connaissance avec eux, avec leur passion, leur travail, leur actualité. Le premier de nos invités est un des fondateurs de la société Solid Anime, une société spécialisée dans les effets spéciaux et plus précisément dans la motion capture, procédé qui, je le rappelle, permet de reproduire des mouvements humains sur des objets numériques. Je sais pas si je l'explique bien. En tout cas, tu vas nous expliquer, tu vas justement pouvoir nous en dire plus. Isaac Partouche de la société Solid Anime est avec nous ce soir. Bonjour Isaac.
Bonsoir à tous.
Alors merci d'avoir accepté notre invitation et de participer tout simplement à cette émission. Moi je suis ravi parce qu'on va en savoir plus sur quelque chose, enfin un domaine moi qui me passionne, les effets spéciaux, la motion capture. Je trouve ça merveilleux, donc je suis très content de te recevoir ce soir dans cette émission.
Merci, j'espère être à la hauteur.
Mais je pense que tu vas être à la hauteur, pas de souci. Notre deuxième invité est directeur de production au sein de l'association Doremi Game & Company, une association dont le but est de soutenir la valeur culturelle des jeux vidéo à travers la musique, principalement. On fera donc plus ample connaissance avec cette association, et puis nous parlerons surtout d'un spectacle qu'ils sont en train de produire et qui sera présenté lors de la Japan Expo dans quelques jours. C'est donc Nicolas Guinet qui va nous en parler. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à tous.
Voilà, on est ravis toi aussi de te recevoir ce soir dans cette émission.
De même, c'est réciproque.
Voilà, je suis content parce qu'on aborde deux sujets qui sont en relation avec le jeu vidéo, mais dont on a rarement l'habitude de parler, je trouve, dans certaines émissions consacrées justement au jeu vidéo. Bref, au sommaire de ce podcast, vous l'avez compris, nous discuterons bien entendu avec nos invités qui peuvent bien entendu intervenir à tout moment. Nicolas, Isaac, vous n'hésitez pas, si vous avez envie de prendre la parole, de dire quelque chose,
aucun problème,
quel que soit le sujet qu'on aborde. Voilà, vous avez autant que nous la parole sur Game Radio ce soir. Nous ferons aussi un petit flashback, une chronique que j'appelle flashback. Alors, je ne vous propose pas qu'on se fasse une partie de flashback, le jeu, je le précise. C'est pas du tout ça. C'est une chronique dont le concept est simple. On va revenir ensemble sur des points d'actualité concernant, bien entendu, le jeu vidéo. Je vais vous soumettre plusieurs titres issus de l'actualité récente et vous allez tour à tour choisir une de ces actus. Et nous allons donc revenir ensemble sur ces infos que vous aurez choisies. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Ouais, c'est bon.
Très clair.
Ok, très bien. Et puis nous aurons une deuxième chronique en fin d'émission, en toute fin d'émission, un peu similaire, qui concerne cette fois les nouveautés jeux vidéo, les sorties de la semaine. De la même façon, je vais vous proposer différents titres qui vont être disponibles là, en magasin d'ici ce week-end, et vous devrez en retenir un, en choisir un seul. Vous allez voir d'ailleurs que cette semaine, ça va pas être simple de choisir un jeu. Les sorties sont pas fabuleuses. Ce sera surtout, je pense, l'occasion de parler jeux vidéo avec vous. Peut-être de mieux vous connaître, mieux connaître vos goûts et vos expériences en la matière. Voilà, bien sûr, ça concerne autant nos invités que Nico et Abelia qui sont là, eux aussi, qui sont toujours là, j'espère.
Bien sûr.
Toujours, il faut.
Ok, alors je souhaiterais qu'on revienne avec toi, Nico, sur une exposition qui se tient actuellement au Musée des Arts et Métiers à Paris, si je me trompe pas.
Voilà,
jusqu'au 7 novembre prochain. C'est une exposition temporaire qui s'appelle Museo Games, une histoire à rejouer. Et toi, Nico, tu as été à l'inauguration de cette exposition. C'était, je crois, il y a quelques jours. J'aimerais que tu nous parles un peu de ce que tu as entendu et vu lors de ce petit événement. C'était lundi ou mardi, si je me trompe pas.
Alors, c'était quel jour?
T'as oublié. Bonne question. C'était cette semaine, on est d'accord.
Voilà. C'était cette semaine.
C'était
en
début de semaine.
C'était le 26 juin, pour être précis. Après, le jour, c'est plus compliqué, mais sinon, c'était vraiment super. Alors, faut savoir que...
Alors, je m'excuse, le 26 juin, c'est impossible, parce que nous sommes le 24, et donc il y a un problème temporel dans ce cas-là.
Pardon, le 21 juin, j'ai mal lu.
Ouais, c'était le jour de la fête de la musique, donc c'était lundi matin, très bien.
Voilà, c'était
lundi. Alors, j'aimerais justement que tu nous dises un petit peu ce que c'est que ce musée. C'est un petit peu à la mode en ce moment, je trouve, les expositions, tant mieux d'ailleurs, les expositions consacrées au rétro gaming. Il y a ce musée qui a ouvert et qui a refermé d'ailleurs.
Ouais. Qui a déjà refermé d'ailleurs.
Déjà refermé, ouais.
Donc, non, mais c'est... En fait, c'est... Le musée des arts et métiers, pardon, qui a une collection du jeu vidéo avec plusieurs machines anciennes et récentes, mais faut savoir qu'un musée, quand il acquiert un objet, c'est interdit d'y toucher. Donc c'est pour ça que MO5 s'est mis en partenariat avec le musée pour que tout le monde puisse jouer à toutes les consoles, en partant de Pong jusqu'à la Xbox aujourd'hui, plus à certaines bornes arcade.
D'accord. Ce que tu es en train d'expliquer, c'est que ce qui fait vraiment la particularité de cette exposition, c'est qu'on peut jouer aux jeux et aux machines qui sont exposées.
Voilà. En fait, il y a énormément de machines exposées où l'on peut jouer à un jeu prédéfini. Par exemple, il y a Sonic sur la console de Sega. On a Pong, on a Pac-Man, on a Space Invaders sur les bornes d'arcade.
Oui. Est-ce qu'il y a la console Vectrex?
Alors, bonne question. Alors je vais te dire ça tout de suite,
l'affiche du salon ressemble énormément au graphisme de la console Vectrex en fait.
Exactement, l'affiche. Ouais, il faut voir aussi que sur leur site, le site de Museo Games, il y a toute une animation avec justement des graphismes comme ça en fil de fer qui font penser effectivement à ce que proposait la Vectrex à l'époque, une espèce d'animation interactive qui permet de revisiter un petit peu les différentes époques du jeu vidéo. C'est assez sympathique, ça fait un peu ramer le navigateur, mais ça marche plutôt bien. Effectivement, ils sont partis dans ce délire-là. La console Vectrex, Isaac, c'est bien que t'en parles justement. Pourquoi pas c'est une console que tu as connue peut-être quand tu étais plus jeune.
Tout à fait. C'est une console que j'ai connue. C'est une console que j'ai encore d'ailleurs. J'ai quelques jeux encore dessus. C'était très intéressant. C'était un peu la Rolls Royce des consoles de jeux vidéo à l'époque. Hein. C'était la première console compacte où on avait la manette incorporée à l'écran. On pouvait détacher la manette en bas et on avait vraiment une manette multidirectionnelle avec 4 boutons.
Avec une sensation.
La technologie était tout simplement un oscilloscope amélioré et on pouvait appliquer et avoir des couleurs à travers différents filtres qu'on mettait par-dessus l'écran. Ce qui permettait d'avoir justement des jeux de couleurs, alors que l'oscilloscope ne pouvait qu'afficher un point très lumineux à l'image, quoi. C'était simple en même temps, c'était très recherché. Il y avait des jeux à deux, il y avait des jeux seuls, il y avait déjà quelques prémices de la 3D, de l'image 3D, mais c'était de la fausse 3D bien sûr. Et c'est pour moi une console à qui je tiens énormément, puisqu'elle est vraiment, vraiment magnifique, cette console, quoi.
Et ce qui faisait vraiment sa particularité aussi, c'était d'avoir un écran avec, c'est-à-dire qu'en fait on avait l'impression d'avoir une borne d'arcade à la maison.
Ah oui, c'est ça.
Ouais, c'était vraiment ça. Moi j'ai eu l'occasion aussi de l'avoir dans les mains quand j'étais gamin, on me l'avait prêté un copain, Et je me souviens d'un jeu Star Wars, un jeu de vaisseau qui était particulièrement kiffant à l'époque. Enfin,
ah oui, 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 tout à fait.
le fameux
tir sur la lune noire.
C'est ça, exactement. Et c'était énorme. Nico, donc, pour revenir sur le musée, de ce que t'en as vu, toi, t'as kiffé ou pas? Est-ce que c'est vraiment, alors, l'association MO5, je crois, avait participé au début. Ce qui est aujourd'hui le musée du jeu vidéo, je crois qu'il y a une petite mésentente à un moment ou un autre, on va pas revenir là-dessus, et donc finalement ils ont réussi de leur côté à proposer quelque chose de similaire ailleurs, en gros c'est ça.
Voilà, mais faut savoir qu'il n'y a pas que des jeux, enfin des consoles où on peut jouer, il y a aussi, c'est une exposition, donc il y a beaucoup de télé qui retransmettent des interviews d'acteurs du monde du jeu vidéo, avec des questions comme leur jeu préféré ou comment ils en sont arrivés au cinéma. Il y a également une comparaison entre Mario et Buster Keaton, qui était un acteur du cinéma burlesque au tout début. Et il y a vraiment également, il y a même un artiste qui colle des Space Invaders un peu partout dans Paris en carrelage, qui a laissé une citation. C'est vraiment, il y a de tout dans le musée, tant sur le point technique, sur le point de connaissance, c'est vraiment intéressant de tous les points de vue.
D'accord. Nicolas Guinet, toi qui es avec nous,
oui.
Quelques mots peut-être sur cette exposition, tu y as été, tu connais?
Je suis pas allé à la soirée d'inauguration, mais par contre, j'irai faire un tour cet été, parce que MO5, c'est vraiment une association de passionnés. Ouais, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de les rencontrer, hein. Ils avaient fait une exposition 30 ans de rétro gaming, c'était au Festival du jeu vidéo. Et puis ils mêlent vraiment toutes les consoles, toutes les générations, et on est obligé de se retrouver quelque part parmi les consoles qu'ils exposent. Et en plus, c'est vraiment, comme j'ai dit, une équipe de passionnés. Quand on leur parle de jeux vidéo, ils parlent pas le dans le vent. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de les voir arriver à monter une exposition au Musée des Arts et Métiers. Ils ont vraiment chapeau.
D'ailleurs, faut savoir que il y a pas mal de conférences, d'ateliers pour les enfants dans les alentours de 10 ans, et la place est pas très chère. C'est
ouais,
5,50 la place et 3,50 tarif réduit.
Alors on n'a pas bien compris, 3,50 tarif réduit et 5 euros.
5,50 plein tarif.
5,50 plein tarif, oui, c'est même un peu moins cher que le musée du jeu vidéo finalement. Enfin bon, très bien, on va donc passer un petit peu du coq à l'âne, on va quitter le rétro, on va dire, et on va passer à quelque chose de beaucoup plus moderne qui concerne entendu le jeu vidéo, il s'agit de la motion capture, mocap, c'est bien ça Isaac je crois.
Oui, oui, c'est ça, la mocap.
La mocap.
Technique.
Moi, un peu technique, ouais. Moi, je trouvais ça intéressant sur Game Radio de, qu'on mette un petit coup de projecteur, bah, bien entendu, sur Solid Anime et puis sur la motion capture, donc en général. Parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu un maillon quasiment essentiel de la chaîne de développement des jeux vidéo.
Tout à fait. C'est, ouais, en fait, la partie animation aujourd'hui. La plupart des jeux se veut, on va dire, sont 80% du marché aujourd'hui, sont ces animations assez, assez réalistes où on a des personnages qui se veulent de plus en plus réalistes, où on pousse justement le graphisme à une réalité encore plus en plus augmentée. Effectivement, la motion capture est une technique qui permet de capturer du mouvement et justement d'intégrer ce mouvement dans des personnages de jeux vidéo réalistes et du coup d'avoir des animations réalistes qui vont aussi avec le graphisme, tout simplement.
Alors justement, dans les jeux auxquels on joue aujourd'hui,
oui,
quelle est la part de jeux qui utilisent cette motion capture? Tous ou pas tous?
On va dire tous les jeux où on voit des personnages justement qui ont une morphologie qui se veut réaliste, donc ça va être pas mal de FPS, ça va être par exemple des jeux comme Uncharted 2, ça va être tous les Uncharted, ça va être les Lara Croft, les Tomb Raider, ça va être c'est tous ces jeux-là en fait, tous les jeux qui se veulent cartoon, donc je dirais tous les jeux un peu Nintendo, on va pas du tout avoir de motion capture, type Mario, type tous ces jeux-là, forcément c'est ce qu'on appelle l'animation traditionnelle, ce qu'on appelle le keyframing,
ouais,
qui est une technique utilisée pour ce type de jeu. Donc on a aussi certains jeux qui mélangent les deux, donc on peut retrouver ça dans les Assassin's Creed. Ce type de jeu où on part d'une base d'animation motion capture, puis on la retravaille pour avoir un peu plus de spectaculaire et un petit peu plus d'action qui colle un peu au caractère design du personnage.
Ok, voilà. On va parler de tous ces petits détails un peu plus techniques un peu plus tard. On connaît hein, le principe de la motion capture. Je crois que tout le monde a déjà vu des vidéos ou des choses qui nous présentent justement donc ces acteurs alors avec leurs combinaisons, leurs cagoules, avec des petits points un peu partout qui sont filmés par des dizaines de caméras. et ça permet donc apparemment de capturer, d'où le mot motion capture, hein, de capturer les mouvements. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de la motion capture, si c'est possible, je sais pas, c'est peut-être pas simple, nous dire depuis combien de temps ça existe, depuis combien de temps c'est utilisé, et comment elle évolue depuis peut-être 10 ans, 12 ans?
La motion capture, elle a évolué maintenant depuis plus de 10 ans. Hein. On va dire qu'avant c'était une technique qui utilisait des caméras de plus basse résolution. La technique est simple, entre guillemets, on est sur des caméras type infrarouge où on les positionne dans une pièce tout autour et on met un acteur en combinaison avec des petits marqueurs blancs qui sont réfléchissants et les caméras ne peuvent voir que ces points. Ensuite, c'est une méthode de triangulation qui permet de repositionner le point dans l'espace, tout simplement. Ensuite, après cette étape de captation, nous allons interpréter ces points dans l'espace dans un squelette 3D pour après l'intégrer dans un personnage 3D. Donc l'évolution qu'il y a eu depuis maintenant près de 10 ans a été essentiellement hardware. Donc on a amélioré la capacité des caméras qui sont passées du 640 480 à plusieurs millions de pixels, donc ce qui a permis de pouvoir augmenter la précision de la captation, mais aussi de pouvoir capturer le corps et le visage en même temps. Ça, c'est un premier point.
Ah, c'est-à-dire, je te coupe, pardon, excuse-moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable non seulement de faire une capture d'un acteur, son corps, mais aussi en même temps son visage, c'est ça?
Tout à fait. On place des petits marqueurs de 3 mm sur le visage, et les caméras sont assez précises justement pour... Ouais. Pour capter ce type de point, même aussi petit qu'il est en fait.
Donc en fait l'évolution s'est faite sur ces détails là, sur la précision de la captation.
Sur la précision des caméras.
D'accord.
Déjà.
Ok.
Et maintenant nous arrivons à une nouvelle ère entre guillemets de la motion capture, qui est plutôt de la capture sans marqueur et je dirais à partir de vidéo tout simplement, où là on est sur des systèmes dits markerless, donc sans marqueur, où on a un système de plusieurs caméras encore une fois. Et il y a des algos qui vont permettre de détourer, de faire des contours sur les personnages et donc d'avoir une motion capture sans marqueur et sans contrainte de combinaison. Voilà, ça c'est un peu l'avenir de la motion capture aujourd'hui. On a déjà certains systèmes qui fonctionnent comme ça, qui sont malheureusement pas encore assez précis et assez fins pour être utilisés en prod, mais je pense que d'ici 2-3 ans, ça devrait être opérationnel.
Alors, voilà. Pour nos auditeurs qui vous connaissent peut-être pas très très bien, il faut savoir une chose, c'est que la société Solidanime, c'est plus de 10 ans d'expérience dans ce domaine. C'est un paquet de réalisations assez importantes. Hein. J'ai fait un tour sur votre site, j'étais assez ahuri par le travail que vous avez fait pendant ces 12-13 ans, je crois. Est-ce que tu pourrais nous faire un point justement sur toutes ces réalisations, tous les jeux sur lesquels vous avez travaillé, que les gens se rendent bien compte quand même de votre positionnement sur le marché, notamment de ces effets spéciaux pour le jeu vidéo?
Alors en fait, l'équipe de Synanime est constituée de plusieurs personnes qui ont au minimum aux alentours de 10 à 13 ans d'expérience dans l'animation motion capture. Nous avons eu la chance de travailler sur énormément de projets, qui soient du jeu vidéo mais aussi du film. Donc ce qui est intéressant en motion capture, c'est qu'on peut vraiment être dans les deux marchés, quoi, simplement effets spéciaux mais aussi jeux vidéo, ce qui nous a permis de travailler sur des jeux, je dirais ce qu'on appelle le triple A, donc c'est des jeux qui se veulent un peu les gros titres de différents studios. On a eu l'occasion de travailler sur les Rainbow Six, sur les Ghost Recon, beaucoup de jeux d'Ubisoft bien évidemment, avec Sony, Ninja Theory, on a travaillé sur le Heavenly Sword sur PS3. On a eu la chance de travailler sur des jeux aussi type Nintendo Wii, c'était sur Red Steel 1 et 2. Ça c'est les différents projets, ça c'est des gros titres. Et en film, donc ce sont plutôt pour les effets spéciaux, on a eu la chance de travailler avec Ridley Scott, Tim Burton, Oliver Stone, différents réalisateurs comme celui-ci pour répondre à un besoin qui était de refaire justement des personnages très réalistes 3D à l'image pour des effets spéciaux. Kingdom of Heaven, Charlie et Chocolate Factory, des films comme ça. Voilà.
Alors je ne sais pas si vous êtes nombreux sur le marché, qu'est-ce qui fait que toutes ces gens que tu viens de nommer, toutes ces sociétés de production viennent vers vous? Je crois savoir que vous avez d'un point de vue technique quelques procédés qui font que justement vous pouvez intéresser la plupart des développeurs de jeux vidéo et de films aussi, les cinéastes.
Bien sûr. En fait, ce qui fait un peu la force de Solidanime, c'est évidemment l'expérience. à travers toutes ces années, nous avons pu affiner un peu nos méthodologies de solving. Ce que j'appelle solving, c'est l'interprétation des points dans l'espace, donc les points 3D en squelette 3D.
Et je crois aussi, je me permets de te couper, qu'il y a une histoire, je suis pas spécialiste, donc c'est pour ça que je vais peut-être mal l'expliquer, une histoire de nombre de caméras. Je crois que vous avez un équipement qui est vraiment la pointe de la technologie.
Là, aujourd'hui, on est équipé de 32 caméras MX40+.
Voilà, c'est ça.
Donc, qui est un système Vicon, qui est un peu le leader dans le marché aujourd'hui. Donc, c'est un système qui est vraiment très, 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 très performant. Ça, c'est évidemment, c'est important d'avoir un bon système, et c'est aussi très important d'avoir l'expérience. C'est comme d'acheter un très, très gros PC boosté. Ça veut pas dire que derrière on est capable de faire la plus belle image 3D en fait. C'est aussi l'utilisation des logiciels, l'expérience que l'infographiste a pour sortir l'image. Il peut très bien sortir de très très belles images avec un ordinateur beaucoup moins puissant. Donc le hardware c'est important, c'est évident pour rester à la pointe des demandes des réalisateurs qui veulent de plus en plus de précision et justement de détails dans l'animation. Mais c'est vraiment, j'insiste dessus, c'est vraiment l'expérience qui fait vraiment la différence. On a vraiment un solving qui est vraiment pointu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les Anglais, entre autres, les boîtes d'effets spéciaux anglaises et les grosses sociétés de jeux vidéo passent nous voir. Voilà.
Alors, je me permets simplement de signaler aux auditeurs que s'ils entendent un enfant, c'est normal. Il y a bien...
C'est mon petit garçon.
Voilà, auquel on fait un petit coucou, on en profite. Très bien, je voulais savoir si Nico avait une question à te poser, justement.
Ouais, en fait, j'aimerais savoir vraiment, comme je vois que t'as travaillé beaucoup sur le cinéma et le jeu vidéo, s'il y avait une grande différence entre le travail que vous faites pour un film et le travail que vous faites pour un jeu vidéo.
C'est une très très bonne question. On va dire que la technique forcément est identique, mais c'est vrai que l'attente est différente. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on va se plier à des contraintes qui sont liées au moteur du jeu, forcément. Donc un retraitement d'animation qui en découle. Donc souvent des algos de compression qui vont malheureusement dénaturer l'animation. C'est pour ça que souvent on voit des animations avec parfois les pieds qui glissent, des choses comme ça. C'est que l'animation a été retraitée derrière pour que ça puisse entrer dans les capacités mémoire de la machine. Alors que dans le monde des effets spéciaux et du film, on n'a plus de contraintes du tout, quoi. On livre l'animation brute telle qu'elle est, donc elle est très lourde en mémoire, mais peu importe, il faut vraiment du détail et du réalisme. Et c'est un peu la grosse différence. Maintenant, le point commun, c'est que la méthodologie est la même, donc on est toujours sur un champ de motion capture, on travaille toujours avec des acteurs, avec des réalisateurs, la performance reste identique, c'est vraiment l'utilisation qui est vraiment différente, en fait.
Tu parlais des acteurs, là, justement.
Oui.
Ces gens-là sont aussi très importants. On parlait de l'expérience, on parlait des moyens techniques, enfin, du matériel. Les acteurs aussi, c'est des gens qui, dont c'est le métier, ou qui se sont spécialisés, justement, qui font partie de votre équipe, à part entière, d'une façon...
Oui, un peu, on va dire, on travaille avec des pools d'acteurs différents, donc issus de l'univers théâtral dramatique, du monde des cascades, il y a des sportifs aussi. On travaille beaucoup avec des sportifs. Oui, effectivement, ce sont des gens qui sont spécialisés tout simplement. Donc au final, ce sont des acteurs entre guillemets classiques, mais qui ont appris à maîtriser un petit peu l'environnement technique autour. Et du coup, on travaille souvent avec les mêmes, c'est vrai. Et je reviens aussi du fait que c'est très très important puisque tout en découle de leur performance.
Alors justement, je crois que Abelia, qui n'a pas encore beaucoup parlé ce soir, c'est ton heure, ça y est, avait 2-3 questions à te poser au sujet justement de ces acteurs, de leur travail.
Ouais, justement, oui, je me posais la question parce que c'est des acteurs qui ont été habitués à faire des tournages beaucoup plus classiques. Voilà, comment ils abordaient un tournage où au final il n'y a pas de décor, il n'y a rien, c'est du totalement virtuel. C'est pas difficile pour eux de se mettre un peu dans la peau du personnage pour faire les mouvements et...
Bonne question. On va dire que il n'y a rien, oui et non. On va dire qu'ils ont quand même un vidéoprojecteur en phase 2 avec un retour temps réel de l'environnement et du personnage qui joue. Donc quelque part on travaille, nous, c'est aussi quelque chose qui a été très amélioré. On retombe sur la question du début à propos de ce qui est devenu beaucoup plus intéressant en motion capture aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir justement un retour 3D intuitif, donc avec déjà le retour sur l'acteur 3D déjà. Donc le comédien peut se voir déjà un personnage 3D, Par exemple, s'il joue le lapin crétin d'Ubisoft, il peut se voir en 3D à l'image directement.
Les lapins crétins d'Ubisoft ont été motion capturés.
C'est pas trop étudié pour, on va dire.
D'accord.
C'est un mauvais exemple, mais c'était pour que les gens
qu'on comprenne bien. D'accord, ouais.
Comprennent bien. Okay. Mais on a déjà fait des trucs, on a déjà fait des tests. C'est vrai que c'est compliqué. La morphologie est vraiment complexe puisqu'il y a des toutes petites jambes, un gros ventre et une grosse tête. Donc c'est sûr, par rapport à un humain, c'est compliqué d'interpréter justement un mouvement d'humain sur ce type de morphologie. Mais en fait, c'est juste pour vous dire qu'il y a des retours du comédien sur son acteur 3D. Donc s'il joue l'acteur principal, le rôle principal dans Uncharted 2, il se verra à l'image sur le vidéoprojecteur bouger directement, hein, en temps réel. Donc ça lui permet d'avoir de pouvoir un petit peu mieux, je dirais, incarner son rôle. Et on peut aussi intégrer quelques décors en 3D sans alourdir le processus et rester en temps réel. Donc on peut par exemple faire la scène du bus ou la scène d'intro dans la neige, des choses comme ça. On peut essayer de travailler directement dans les environnements 3D. Un peu ce qu'a fait James Cameron sur Avatar, hein.
Ouais, tout à fait.
Avec une logistique beaucoup plus coûteuse, mais c'est typiquement la même.
D'accord. Alors, quels sont les travaux sur lesquels vous êtes en ce moment, les projets en cours? Est-ce qu'on peut avoir deux trois choses comme ça? Est-ce que vous travaillez actuellement justement sur un jeu vidéo?
On travaille sur plusieurs jeux. On travaille en ce moment sur le projet Kinect maintenant.
Ah, très bien. On voulait en parler avec toi justement de Kinect.
De Microsoft. Qui est aussi lié à la motion capture quelque part, puisque c'est un device qui permet de d'analyser le mouvement et de l'interpréter à l'image.
Alors justement, je me permets, on voulait en parler avec toi justement.
Je peux pas trop en parler.
Non, pas forcément.
Pose-moi des questions, mais si je peux pas y répondre, c'est que vraiment.
Voilà. Oui, il y a pas de souci. Sur Kinect justement, comment dire, ces capteurs de mouvement un peu tout public, on peut peut-être même parler de la Wii qui a commencé dans ce domaine-là. Ton avis sur ce qui est proposé aux joueurs, toi qui as quand même l'habitude de la motion capture haut de gamme, on va dire, l'avenir de tout ça, est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui a de l'avenir dans le jeu vidéo, ou est-ce que c'est une mode, un gadget actuel? Comment est-ce que tu vois les choses?
Ben moi, étant donné que je suis quand même une personne qui joue pas mal, je vais plutôt m'orienter sur le gameplay, forcément. Donc si les développeurs arrive à en extraire un gameplay vraiment amusant, intuitif, qui fasse vraiment bouger tout le monde, de la mamie au petit enfant de 2 ans, c'est super. Donc est-ce que c'est l'avenir? Je veux dire, je pense que c'est pas forcément l'avenir, mais en tout cas je pense que c'est très intéressant d'utiliser ce type de device, puisque je pense que ça ouvre vraiment le jeu vidéo à des personnes qui auraient jamais essayé de jouer justement. Donc que ça soit la Wii ou le projet de Microsoft, je pense que c'est vraiment bien. Moi, je trouve ça vraiment bien.
Quelques mots peut-être sur la technologie utilisée par Microsoft.
La technologie, par contre, évidemment, elle est beaucoup plus sommaire que la technologie motion capture qu'on utilise nous pour le film, bien évidemment. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur la détection de contours, donc on est sur quelque chose de beaucoup beaucoup moins précis. Et d'un autre côté, par rapport au gameplay et aux personnages, je dirais, de Microsoft, qui sont les petits avatars, ça suffit largement, quoi.
D'accord. Abelia, une question justement sur Kinect.
Oui, je me posais la question, parce que par exemple avec la Wii, donc il y a l'aspect de la manette qui va être supprimé, donc avec Kinect, donc on n'aura plus vraiment de manette en main. Et justement, est-ce que ça va rajouter quelque chose au niveau de la fluidité des mouvements avec le Kinect, ou est-ce que ça sera la même chose que la Wii, sauf qu'on n'aura plus de manette en main?
Là-dessus, je peux pas vraiment dire grand-chose, puisque c'est plutôt lié aux équipes de développement et tous les développements de jeux vidéo qui vont en découler. Nous, on travaille essentiellement
sur
des jeux plutôt des jeux de danse.
Donc, voilà, mais justement,
c'est plutôt de la danse. Justement, j'ai encore malheureusement pas vu d'autres projets.
Isaac, excuse-moi, justement, oui. Justement, parce que justement, c'est bien que tu en parles, parce que je ne comprenais pas bien pourquoi un studio de motion capture allait travailler sur un jeu qui allait justement capturer le mouvement. Donc ça veut dire qu'effectivement vous capturez en fait les personnages qu'on va voir à l'écran et qui vont, entre guillemets, dans le cadre d'un jeu de danse, nous donner l'exemple de ce qu'on doit reproduire. En gros, c'est ça.
Exactement.
D'accord, ok.
Exactement ça. C'est ce qui a été présenté à l'E3. Il y a eu pas mal de jeux qui en sont sortis. C'est vrai que tout de suite, dès qu'on voit
alors là, tu m'inquiètes.
Cet objet, Dès qu'on voit cet objet, on s'imagine tout de suite un jeu de danse, mais évidemment, quoi.
Donc là, ça confirme une chose qu'on soupçonne, c'est que Microsoft est vraiment à la bourre quant au développement de ses jeux pour Kinect, puisque vous êtes encore en train de travailler dessus, si j'ai bien compris. Enfin bon.
En fait, c'est pas vraiment à la bourre, puisqu'au final, la technique fonctionne. Il faut que l'acteur, enfin, pas l'acteur, mais en tout cas le joueur, puisse reproduire le mouvement du danseur en face de lui. Et donc, il lui faut vraiment ces mouvements danseur professionnel face à lui pour qu'il puisse les reproduire.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que le jeu n'est pas encore terminé.
Ah non, le jeu n'est pas encore. En tout cas, ce jeu-là n'est pas encore terminé.
D'accord. Enfin bon, il fait partie du line-up de lancement, je crois.
Oui,
de
oui,
Kinect.
Oui. Il y a eu plusieurs jeux de danse, en fait, qui ont été présentés. Nous, on fait partie d'un de ces jeux, mais c'est pas celui qui doit sortir en premier, de toute façon.
Ok, très bien.
Donc il est pas, on va dire, ce jeu-là n'est pas du tout à la bourre. Hein.
Ok. Nico,
petite question,
j'espère que les autres, ils sont plutôt en avance d'ailleurs.
Je leur souhaite.
Depuis tout à l'heure, je suis sur la page donc de celui d'anime et il y a un petit squelette qui danse. Et donc, je voulais savoir si ce que l'on voit, donc ce que fait le squelette, c'est des prises de vue d'un futur jeu Kinect ou
non du tout.
Ou c'est vraiment un exemple.
Non, du tout. C'est des animations c'est des exemples sur certaines prestations qu'on a pu faire. J'ai extrait quelques animations assez fun en fait. Non, c'est pas du tout de.
Alors, pour conclure ce sujet avec toi sur Solid Anime et sur la motion capture, on pourrait en faire beaucoup plus long, mais on a beaucoup de choses encore à faire dans cette émission. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux donner peut-être des conseils ou des jeunes ou peut-être des gens qui auraient envie de se lancer dans les effets spéciaux. Je sais pas s'il y a des écoles, je sais pas quel est le parcours qu'on doit suivre. Comment est-ce que toi tu en es arrivé là? Mais si tu pouvais peut-être.
Oui. Bah pour la motion capture, je pense pas qu'il y ait de formation spécifique. Moi, j'ai fait une formation d'imagerie numérique, donc j'ai fait art et technologie de l'image à Paris 8, donc il y a un cursus universitaire où là j'ai donc étudié l'image de synthèse dans sa composition algorithmique. Et par la suite, je me suis intéressé à l'animation et à l'animation réaliste. Donc, j'ai fait ma thèse sur la motion capture. C'est comme ça que je suis arrivé en motion capture il y a maintenant plus de 10 ans. Maintenant, aujourd'hui, je suis pas très au courant en tout cas, je pense pas qu'il y ait des formations spécifiques à la motion capture. En tout cas, il y a énormément d'écoles 3D, en tout cas.
Est-ce que vos entreprises, ta société peut-être, recrutent? Oui. Régulièrement des personnes, vous êtes à la recherche de personnes qui ont...
Oui, bien sûr, ouais. Ça arrive, bien sûr. Le profil que j'aime beaucoup, c'est des personnes qui sont autodidactes, c'est des personnes qui ont justement... C'est vraiment ce type de profil qui m'intéresse, puisqu'au final, ils sont... Parce qu'en fait, ce qui fait vraiment, encore une fois, l'expérience de la motion capture, c'est le fait de tester énormément de choses, et je pense qu'on retrouve assez souvent ce type de méthodologie à travers des personnes qui sont autodidactes. Donc voilà.
Des personnes qui s'engagent, qui aiment créatifs,
bien tester, qui font de la 3D, qui font d'autres choses, qui font pas forcément que l'image 3D à travers 3D Studio Max ou Maya en fait.
Très bien. Écoute, Isaac, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bien entendu, on va continuer cette émission.
Ah, merci à vous en tout cas d'avoir écouté et puis à très bientôt.
Oui, mais reste avec nous, ne quitte pas. Non, voilà, c'est ce que j'allais dire, mais on va peut-être en reparler. Oui, j'ai pas demandé Nicolas Guinée, est-ce que tu es toujours là?
Oui, toujours.
Normalement, voilà. Est-ce que tu as peut-être une question toi à poser à Isaac concernant la motion capture?
Mais c'est vrai que c'est super intéressant comme procédé. Bon, j'ai vu comme tout le monde sûrement quelques reportages autour de la motion capture. Mais à mon avis, ce serait intéressant pour tout le monde d'être immergé dans la réalisation de ce genre de procédé. En tout cas, bon, c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne.
Très bien. Allez, on passe à la suite de cette émission avec le petit flashback dont j'ai parlé dans le sommaire. Alors, je rappelle le principe rapidement. Je vais vous donner plusieurs titres d'actu récentes, des choses qui sont passées dans les 10 derniers jours. Et puis, chacun d'entre vous, Isaac, Nico, Nicolas ou Abélia, vous allez choisir une de ces actus, puis on va peut-être en reparler ensemble. Alors, je vais vous les énumérer, enfin vous les lire tout simplement. Première actu que j'ai retenue, il y en a 5. Première actu, c'est la 3DS et sa démo technique. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est une vidéo où l'on voit un samouraï qui effectue des mouvements d'épée ou de katana sur un balcon. Je ne sais pas si c'est particulièrement impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est une portable, donc effectivement, ça en jette. Deuxième info, c'est le journal Libération qui cette semaine a diffusé une page publicitaire conçue par Sony montrant un coq, le symbole français, donc décapité avec le slogan « Game Over ». Une allusion aux défaites des Bleus lors de la Coupe du Monde. Et puis, troisième info, pas de ROD sur la Xbox 360 Slim, Microsoft va tenter de contrecarrer les problèmes de ROD sur la nouvelle 360. Espérons qu'il y arrive. La console, voilà, si la console détecte le moindre problème de ventilation, un message d'erreur nous préviendra. Avant l'arrêt de la console, on devra donc éteindre, enfin, il y aura une extinction automatique, pardon. Il faudra attendre l'extinction d'un signal lumineux avant de pouvoir allumer sa 360. Quatrième info, les jeux Dreamcast, sur le Xbox Live Arcade et sur le PlayStation Network, Sega, va nous resservir d'anciens titres Dreamcast, et tant mieux, il a proposé aux joueurs d'exprimer leurs souhaits concernant ces jeux via Facebook. Et enfin, dernière info, c'est justement un petit retour sur Natal, on sait maintenant que ça s'appelle Kinect, le nom ne plaît pas forcément, le périphérique déçoit quelque peu, voilà, on pourrait revenir là-dessus aussi. Donc, je l'ai rapidement, la 3DS et sa démo technique, le journal Libération, pas de ROD sur la 360, les jeux Dreamcast... et Natal, enfin Kinect. Donc peut-être Nicolas Guinet, quelle info tu retiendrais ?
Oh bah la pub Sony, puisque bon, elle a fait quand même le buzz sur les réseaux sociaux et sur quelques sites d'actualité. Bon, il y en a qui vont aimer et d'autres pas. Je pense qu'en fait le détail qui fait diverger tout le monde, je pense que c'est la tête coupée du coq. Je sais pas ce que tout le monde en pense, mais
Et est-ce que c'est une pub? C'est assez étrange comme pub. C'est presque une contre-pub. Je pense pas que. Enfin, c'est assez étrange. Il y a une vraie déception française par rapport à cette coupe du monde. D'oser comme ça mettre un coq, la tête coupée, game over, c'est
quand même. Je pense que ça fait du bien de voir ce genre de pub, surtout pour les supporters qui étaient vraiment à fond sur la coupe du monde. Donc, il y a eu une audience assez énorme, je crois que c'était 15 millions sur les deux matchs, les deux premiers matchs. Et donc je pense que même si c'est à travers une pub, Sony exprime un petit peu le ressenti des supporters.
Il faut savoir aussi que Sony était partenaire de l'équipe de France.
Ah, de l'équipe de France, d'accord. Je pensais que c'était
je crois, ouais.
Mais il faut voir le côté marketing, vu le buzz que ça a fait et en sachant que c'est Sony qui l'a fait. Ça peut faire que de la pub pour eux. Au départ, c'est fait pour ça.
Oui, puis bon.
Après, est-ce que c'est choquant? Je pense qu'il y a déjà eu pire. On n'a qu'à regarder les pubs.
Oui, largement.
La routière, c'est trois fois pire. Hein. Surtout que là, c'est un photomontage, comme ils l'ont dit.
Oui, tout à fait. Isaac et Abelia, le foot.
Ouais, non.
D'accord.
Ouais, oui, non, mais c'était très, très décevant. Donc, au final, j'ai suivi ça de près, mais très vite de loin, en fait.
Ouais, parce qu'il se passe. Bon, moi, ce qui m'a peut-être gêné avec Sony, c'est qu'en fait, je sais pas si la France est en deuil. Moi, je suis pas un grand fan de foot, mais c'est vrai que on préférerait qu'on nous en reparle pas forcément. Je sais pas s'il y a une honte par rapport à ça, mais c'est vrai que là, on s'est pas vraiment illustré lors de cette Coupe du Monde. Isaac, justement, tant que je te tiens, toi, l'info que tu retiendrais parmi les 5 que j'ai énumérées, que j'ai lues tout à l'heure.
Ah bah, c'est les jeux Dreamcast, hein.
Ouais, jeux Dreamcast, t'es un gros nostalgique de cette époque?
Ah bah, complètement, surtout que c'était une très 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 bonne console, très performante, et qui avait des capacités vraiment intéressantes pour le gameplay. Je retiendrai évidemment Soul Calibur, hein, bien sûr, qui a été à mon avis encore aujourd'hui inégalé sur toute plateforme.
Et puis toi, le genre de jeu que toi tu as dû kiffer à l'époque, puisque niveau motion capture, là on pouvait se régaler. Il y avait des séances de combat.
Soul Calibur, ouais. C'était une tuerie, quoi. Et aussi les Power Stone, bien sûr, en multijoueur, qui était vraiment super, très fun, dynamique. Je suis très arcade. J'aime beaucoup un peu l'univers Sega. Il y a pas que Sega, mais en tout cas, j'aime beaucoup les jeux d'arcade où c'est plutôt des jeux qui nous permettent de nous divertir assez vite en n'ayant que 3 vies et puis passer à autre chose, quoi.
Alors que beaucoup de gens sont quand même dirigés vers la PlayStation à l'époque, la PlayStation 2, pardon, où était déjà la Dreamcast. Aujourd'hui, c'est étrange. J'ai l'impression que tout le monde a adoré cette console. Je dis pas ça pour toi, hein, puisque moi j'y joue encore. J'ai une Dreamcast et c'est vrai que
moi aussi.
Voilà. Et je suis ravi de savoir que les jeux vont redébarquer, même si je les ai toujours. Ces jeux-là vont redébarquer pour ceux qui ne les connaissent pas. Alors justement, si tu devais aller sur Facebook pour proposer ton choix à Sega, ce serait donc, si j'ai bien compris, Soul Calibur et Power Stone.
Power Stone, mais j'ai adoré, mais je pense qu'il est déjà adapté sur Wii, mais c'était Samba de Amigos.
Voilà, tout à fait. Oui, il a été réadapté.
Samba de Amigos, c'était le jeu avec le device qui était magique, quoi. C'était super.
Ah, les maracas qu'on pouvait
utiliser, qu'on pouvait connecter à la console et pouvait s'allumer. Enfin, c'était vraiment super, quoi.
Ouais, Nicolas, Guinée, toi, la Dreamcast.
Je l'ai pas eu au moment de sa sortie. J'en ai racheté une après deux cases. Mais ouais, c'est une console qui a marqué. Après, est-ce que je suis emballé à 100% sur le fait que les jeux sont de retour sur Xbox Live? À moitié, puisque j'avais acheté pas mal de portages comme Crazy Taxi et Sonic sur GameCube.
Ah oui.
Donc, bon, c'est un peu la marque de fabrique, parfois Sega, de
c'est
faire
vrai.
Un petit réadaptation sur,
tout à fait.
Les consoles suivantes.
Voilà. Il y a un jeu aussi, il y a un jeu aussi qui était, enfin, il y a pas mal de jeux qui étaient vraiment bien. C'est tous les jeux shoot 'em up qu'il y avait encore à l'époque, qu'il n'y a plus aujourd'hui, quoi.
Oui, Ikaruga,
les guns,
oui, il est très dur, Ikaruga, en fait.
Alors, moi, j'en ai plus. J'ai plusieurs shoot 'em up, mais j'ai toujours du mal à retenir leur nom. Effectivement, il y en a eu énormément. Et d'ailleurs, il y a encore eu des shoot 'em up à la fin de la Dreamcast. Les jeux qui ont encore été développés sur cette console étaient généralement des shoot 'em up. Il y en a eu plusieurs, 2-3, je crois, qui sont sortis après la fin de la console. Nico. Quelle info tu as retenu, toi, parmi celles que j'ai lues tout à l'heure, justement? Donc,
moi, ça serait plus Kinect, étant possesseur de la 360 et fervent adorateur de celle-ci. Je me dis que, en voyant les jeux, il y a quand même un pourcentage de jeux casual énorme par rapport aux jeux un peu plus gamer.
Alors, on n'a pas eu l'occasion d'en reparler ensemble, justement. Est-ce que toi, enfin, comment est-ce que tu as vécu cette E3, ces conférences de Microsoft et cette direction qu'est en train de prendre Microsoft là actuellement avec Kinect?
Bah, j'espérais quand même beaucoup voir vraiment de vrais jeux, on va dire, plus gamers, et j'ai été un peu déçu, même un peu beaucoup, de voir tout ça. Et après, quand on sait que quand on est possesseur de la Xbox, donc première génération, pas la Slim, il faut en plus acheter quelque chose pour faire marcher, je crois que c'est un secteur pour faire marcher Kinect,
ouais,
ça fait un peu, ça fout un peu les boules de devoir encore ajouter de l'argent pour acheter ça, tout ça pour avoir des jeux vraiment très casual. Et quand on voit la démo de Star Wars avec un acteur qui joue devant, on sait plus quoi penser.
Bon, c'est certain, on l'a déjà dit sur Game Radio, la plupart des gamers se sont sentis un petit peu lésés sur le coup par Microsoft. En tout cas, ça ne nous concernait pas vraiment. L'opinion générale de Isaac, Nicolas, peut-être sur Kinect, réellement cette sensation qu'on a peut-être d'avoir l'impression qu'on nous resserre un peu le même menu que ce que nous avait proposé la Wii au lancement.
C'est quand même une technologie très complexe de pouvoir capter le mouvement, de pouvoir positionner un personnage dans l'espace, de pouvoir le réinterpréter en personnage 3D à l'image.
Mais quand on voit Kinect en démo, on voit quand même les limites encore. Et est-ce qu'il est pas trop tôt pour se lancer? On voit que
moi,
ça peut évoluer sur
pour des jeux ça dépend, en fait. Non, ça peut être très intéressant en termes de gameplay. Je pense que c'est plus un travail aujourd'hui des créateurs de jeux, plus, enfin, c'est un mix, évidemment, ils travaillent ensemble, mais je veux dire, par là, il y a quand même tout un travail à faire sur le gameplay autour de ce device, en connaissant clairement les limites. Évidemment, on peut pas non plus faire des mouvements très précis, donc ça restera type des jeux de boxe, des jeux de combat, des choses comme ça, vous voyez, des jeux de danse. Évidemment, ça resterait très casual game, hein. Ça c'est clair.
Ok, Nicolas,
pour l'instant, mais ils améliorent toujours les algos, ils améliorent la technique au fur et à mesure. Donc ça se trouve que d'ici quelques mois, on aura quelque chose de beaucoup plus précis.
Ça reste
plutôt que casual game. Hein.
Sans avoir besoin d'utiliser un périphérique différent. Tu penses que ce périphérique-là, Kinect, tel qu'il est, la caméra telle qu'elle est aujourd'hui, peut évoluer grâce à des mises à jour, des choses comme ça?
Oui, elle peut encore évoluer, bien
D'accord.
sûr.
D'accord. Nicolas, tu avais toi aussi quelque chose à dire sur Kinect?
Kinect surtout Kinect qui est un peu plus prononcé, c'est le fait que bon, ils prennent une direction où on se demande aux gamers un effort physique vraiment présent, parce que là on peut carrément se lever.
Non, c'est trop nous demander, tu as raison.
Voilà. Elle est où l'époque où on pouvait s'allonger
sur le canapé
et jouer
On nous oblige à, et on, ouais, on nous fait
quand on se rappelle des jeux tels que Trackmania à l'époque, où fallait appuyer sur deux boutons en même temps, ça faisait travailler le bras.
Non, mais on a l'impression qu'on cherche à nous donner.
On travailler les yeux, Trackmania, parce qu'on allait à une vitesse.
On cherche.
Pas forcément réaliste.
On cherche à nous donner mauvaise conscience, j'ai l'impression, avec ces contrôleurs de mouvement, là, qui nous incitent à faire du sport. Un petit peu. Abelia, toi, quelle est l'info que tu retiens, parmi les cinq que j'ai lues tout à l'heure?
Juste un petit retour sur le Kinect, parce que j'ai...
Oui, pardon, excuse-moi.
Voilà, ouais, pas de souci. Je rejoins juste un petit peu l'avis pessimiste et j'ai un peu peur que sa sortie soit trop tôt et que ça soit juste de la technologie au service de la technologie et pas trop au service du gamer.
Okay.
Donc voilà, juste une petite crainte à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'info, je sais pas si on me permettait de passer quelques mots sur l'iPhone 4 que tu n'as pas cité.
Ah bah si tu veux, vas-y, fais-toi plaisir, pas de problème.
Puisque l'iPhone 4 est sorti aujourd'hui, le 24 juin donc.
Ah oui.
Et voilà, donc je m'y suis intéressée le 18 juin quand j'ai vu une dépêche sortir sur un Texan qui a planté sa tente devant l'Apple Store aux États-Unis, qui attendait la sortie de l'iPhone 4. Donc je me suis un petit peu intéressée à ce nouveau téléphone en me disant voilà, si on l'attend avec impatience, c'est qu'il va être génial. Et voilà, un petit grosse déception qu'au final voilà, juste un écran un petit peu plus grand, un peu plus léger et voilà,
une deuxième caméra.
Une deuxième caméra, voilà.
Alors moi je t'autorise à parler de l'iPhone, mais alors parle-nous de jeux vidéo. qu'est-ce qu'on sait à ce
niveau-là ? Alors justement, voilà, il y a double tranchant, il y a la partie donc 5 mégapixels qui est bon, pas révolutionnaire parce qu'il y a beaucoup de téléphones aujourd'hui qui proposent cette technologie. Le seul truc donc je pense qui est vraiment à voir, ça s'appelle le détecteur de mouvement. Donc qui est proposé sur l'iPhone 4, que je pourrais pas vraiment expliquer parce que j'ai pas vraiment réussi à avoir d'infos précises, mais qui serait apparemment utile donc pour le jeu sur iPhone. Donc un détecteur de mouvement. Donc je pense que c'est l'info à suivre sur l'iPhone 4.
OK. Très bien. Bon, ben écoutez, merci beaucoup pour tout ce petit retour sur l'actu, ce flashback. On en a terminé. On va avancer dans l'émission puisque on a encore pas mal de choses à survoler ensemble. On va s'intéresser donc à l'association Doremi Game and Company. Nicolas Guinet, tu es donc avec nous. Tu es le directeur de production au sein de cette association. Est-ce que tu peux, on va attaquer direct comme ça, nous présenter très simplement Doremi Game and Company. On parlera ensuite du spectacle que vous êtes en train de préparer en partenariat avec Orgam, si je me souviens bien.
Games, ouais.
Orgames, pardon, excuse-moi. Oui, j'aurais pu même dire orgasme, ça aurait été étrange. Mais enfin bon, Orgam. L'association, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Doremi Game,
oui.
Ses objectifs, ses activités?
Eh bien, Doremi, c'est une association que j'ai créée en 2008, et donc elle a un peu plus de 2 ans maintenant, et elle cherche à promouvoir la musique de jeux vidéo et un petit peu aussi de temps en temps la musique de dessin animé puisqu'on en reprend pendant nos concerts. Et donc justement, on essaie de promouvoir ces musiques à travers des concerts. On essaie aussi de fournir du contenu sur notre site internet pour essayer d'en parler. Et donc, c'est essayer de faire partager cette culture à travers des activités organisées par des passionnés.
La musique est vraiment au centre de... Alors,
ah oui.
Ah, excuse-moi de te couper.
Tous les membres sont musiciens, ouais. Ils sont passionnés par la musique et par le jeu vidéo, et donc,
alors,
quand on allie les deux, ça fait musique de jeu vidéo, et donc ça... Tout tourne autour de ça.
Ok, alors, excuse-moi de te couper. Isaac m'envoie un petit message discrètement. il doit nous quitter. Il n'y a pas de souci.
Je suis super discret.
Non, il n'y a pas de souci. On te dit au revoir. On te remercie encore d'avoir participé avec nous à cette émission. J'invite juste les gens, s'ils veulent aller un petit peu plus loin, en savoir plus, sur Solidanime, tout simplement aller sur le www.solidanime.com.
J'ai mis le lien sur le chat.
Voilà, mais pour ceux qui ne sont pas sur le chat ce soir, solidanime.com. Vous allez voir, ça vaut le coup d'œil. Allez-y, allez jeter un œil. Voilà, merci Isaac d'avoir participé à cette émission. À très bientôt et bonne continuation. Au revoir.
Au revoir. Bonne soirée à tous.
Au revoir. Alors, on revient vers toi, Nicolas. Excuse-moi.
Ah non, au revoir. Quand même.
Voilà, il était important de lui dire au revoir tout de même. Il serait parti comme un voleur sinon. Donc, nous étions en train de parler de. Faut que je retrouve mes esprits maintenant. De Doremi Game, de Doremi, l'association.
Voilà.
Si j'ai bien compris, donc la musique est vraiment au centre de vos activités. Est-ce que les membres eux-mêmes, et je pense que tu l'es aussi, vous êtes tous musiciens?
Et voilà, hein, tous les musiciens. Donc, on est à peu près une quinzaine. Et on joue tous d'un instrument, donc on est amateur, hein, on fait ça vraiment pendant nos temps de loisirs. Et donc c'est par la musique qu'on s'est retrouvé. Et comme on est aussi baigné dans la culture vidéoludique, bon, ça réunit tout le monde et pourquoi pas organiser des petits concerts autour du jeu vidéo, donc en reprenant des thèmes qui nous ont marqués.
D'accord. Alors ça fait
tout le monde est musicien. Oui.
Tu me disais 2008, c'est finalement. Tout jeune, c'est très récent.
Ouais, c'est assez récent.
Ouais. Combien de concerts justement vous avez pu faire depuis? Vous avez participé à pas mal d'événements. Tu peux nous parler un petit peu de ce que vous avez déjà fait concrètement?
Alors, on est à un peu plus d'une quinzaine de dates sur ces 2 ans, et donc on a la confiance de quelques conventions plutôt connues hein, dans la région parisienne, comme Epitanime, qui a été notre premier concert, c'était en 2008. Et puis après, on a parcouru ces conventions, Japan Expo. Highscore, Shibi Japan Expo aussi. On a fait également Love in Japan, qui était à la Villette pendant le mois d'avril.
Ouais.
Et le Festival Alchimie, qui est une toute nouvelle convention sur Évry, donc en Essonne. Et donc on essaye un petit peu d'apporter du contenu musical dans ces conventions. tout en essayant également de proposer dans la mesure du possible des concerts. Par exemple, on avait fait la fête de la musique à Marsan-sur-Orge, donc c'est la ville où je réside et où siège l'association. Et donc là, on touche par contre un public grand public. Hein, c'est vraiment alors que d'habitude, on touche plutôt des passionnés de jeux vidéo et de la culture japonaise.
Alors, parle-nous justement de la formation. Je pense que on peut parler d'une formation, des formations. Alors, qu'est-ce que vous avez comme formation? J'entends formation
musicale.
Musicale, ouais, les différents instruments que vous avez regroupés. Et qu'est-ce que vous interprétez? En général, peut-être pas parler de tout, mais enfin voilà, qu'est-ce que vous reprenez? Des grands classiques du jeu vidéo?
Pas que. On reprend des grands classiques, donc les thèmes de Final Fantasy comme le prélude. Là, prochainement, donc pour Geek Music Show, on en reparlera tout à l'heure, mais on reprendra des thèmes très connus. Il y en a un que je pourrais pas dévoiler parce que ça reste la surprise. Et donc au niveau des formations, on a des pianistes. Je suis moi-même pianiste. Et puis après, on arrive à poser des duos, on arrive à poser également des compositions de groupes de rock. Donc finalement, on mélange un petit peu toutes ces formations pour proposer un concert très hétérogène et avoir plusieurs styles de musique vraiment distincts. Et je pense que ce qui fait notre différence au niveau...
Alors, le jeu vidéo sort des salons, clairement. Aujourd'hui, les gens sont plus forcément... Le jeu vidéo n'est pas simplement un loisir... fermé, cloisonné. On s'intéresse de plus en plus à tout ce qu'il y a autour. La musique,
oui, comment ça a été fait.
Voilà, la musique notamment. On le voit avec des sites comme gameplaylist.fr. Je fais un petit coucou à Gérald en passant. On le voit avec votre association. On le voit avec Game Radio finalement, qui diffuse la musique de jeux vidéo quasiment en continu toute la journée, les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La musique des jeux vidéo s'écoute.
Voilà, et on voit que les gens s'y intéressent de plus en plus. On en est nous-mêmes la preuve. Comment t'expliques qu'aujourd'hui la musique soit vraiment prise en considération plus peut-être qu'il y a quelques années? On s'en tapait un petit peu, hein, on mettait un jeu dans notre...
Déjà, je pense qu'il y a deux principales raisons. C'est premièrement, les musiques de jeux vidéo bénéficient maintenant d'une technologie qu'on ne peut plus renier. Hein. Maintenant, c'est sur Blu-ray, sur DVD, et même à l'époque de la PlayStation, c'était sur CD. Donc quand on entendait les bandes originales, moi c'était celle de Final Fantasy VIII, mais même celle de Chrono Cross, c'était vraiment d'une qualité intéressante. Et puis après, pour moi, la deuxième raison, c'est que je pense que les gamers s'attachent un petit peu aux concepteurs des jeux vidéo et les considèrent un petit peu comme une légende. Donc tout naturellement, les musiciens de jeux vidéo se sont intégrés à ce processus de vénération, si je puis dire. Et donc, on s'est intéressé à leur travail de plus près et en dehors du contexte du jeu vidéo.
D'accord.
En dehors du fait qu'on jouait. Je pense que c'est deux principales raisons. Il y en a sûrement d'autres.
Ouais.
Tout le monde a de l'admiration pour Miyamoto,
ouais.
Pour Kojima. Donc, pourquoi pas en avoir pour Nobuo Uematsu, Yasunori Mitsuda, donc respectivement Final Fantasy, Chrono Trigger.
Alors, je pense, si tu veux bien, je crois que c'est le moment là de laisser la parole à Abelia. On va passer un niveau au-dessus au niveau de dans cette émission. Vous allez voir pourquoi. Je crois que tu avais une question un peu plus poussée encore dans cette
là.
Histoire. Vas-y, Abelia, je te laisse la parole.
Je crains de pas pouvoir répondre.
Mais si. En fait, ma remarque déjà, c'est que en effet la musique elle est juste indispensable aujourd'hui dans le jeu vidéo et que c'est très difficile de jouer maintenant à un jeu comme Alone in the Dark sans la musique, c'est parce que voilà, ça participe à l'émotion et du jeu, et du coup voilà, la musique est un peu une œuvre séparée en elle-même, enfin seule par rapport au jeu vidéo, la preuve puisque vous reprenez des musiques que vous jouez en tant qu'artiste. Et donc ma question c'est, est-ce qu'aujourd'hui la musique du jeu vidéo participe à l'idée que le jeu vidéo serait le dixième art?
Oui, sans doute. Hein. Il y a de plus en plus de joueurs ou même de personnes qui soutiennent le jeu vidéo, qui veulent faire passer ce loisir au stade d'art. Et donc tout ce qui est graphisme, musique participe un petit peu à l'élaboration de ce stade. Et comment dire?
Ah, c'est un sujet compliqué, là.
Oui, non, mais en tout cas, il y a une chose sur laquelle je vais insister, c'est que faut surtout pas vraiment dissocier la musique du jeu vidéo dont elle est composée. Voilà, faut la jouer, on la joue en dehors des jeux vidéo, donc à l'occasion des concerts, mais il faut surtout la rattacher aussi longtemps possible au jeu vidéo où elle a été à l'origine. Sinon, si c'est plutôt de la musique de jeu vidéo, ça reste de la musique...
D'une manière générale, si je puis me permettre, je pense qu'effectivement, le jeu vidéo, enfin pour ma part, serait effectivement le dixième art. Par contre, je pense qu'il n'y a pas que des chefs-d'œuvre dans le jeu vidéo. Mais voilà,
oui, c'est une autre chose. Le cinéma.
Voilà.
On peut faire un comparatif avec le cinéma qui contient pas que des chefs-d'œuvre. Et d'ailleurs, j'avais une question par rapport au cinéma. On voit qu'il y a un rapprochement de plus en plus fort entre le cinéma et le jeu vidéo. Quand on voit, par exemple, le compositeur Hans Zimmer qui a fait des bandes originales de beaucoup de films, qui a travaillé sur Modern Warfare 2.
Et il y a aussi Harry Gregson-Williams qui est un compositeur de musique de film et qui a signé la BO de Metal Gear. Ça reste rare, je pense, sur les recherches que j'ai pu faire, les compositeurs de films migrent assez rarement sur les jeux vidéo, même s'il y en a en effet de plus en plus, et plutôt des compositeurs prestigieux. Hein. Zimmer, on n'a pas à refaire son nom.
Alors, non, je vous propose qu'on parle maintenant de ce que vous allez présenter très prochainement, et je pense qu'il faut pas rater ça. En tout cas, si vous êtes à la Japan Expo et que vous êtes à Paris à ce moment-là, allez-y. L'association Doremi Game avec donc Orgam et pas Orgasme. Bah, je vais la refaire 10 fois parce qu'elle me plaît beaucoup. Je suis désolé.
Ah, non, c'est un mot populaire. Hein.
Voilà, et l'association Orgames, pardon. Vous allez présenter dans le cadre donc de la Japan Expo, mais aussi de la Comic Con, hein, qui sont un petit peu en même temps, au même moment, au même endroit.
Voilà. C'est deux événements qui se passent au même moment, mais qui veulent vraiment se dissocier au niveau du contenu. Donc Comic-Con, c'est plutôt le festival de l'imaginaire, donc science-fiction, comics. Puis Japan Expo, c'est la culture traditionnelle, c'est les groupes japonais.
Un peu de cosplay aussi, du manga et un peu de jeux vidéo.
Enfin, tout ce qui fait cosplay, c'est aussi dans Comic-Con, puisque
Il y a un mélange. C'est vrai que là, ça peut se rejoindre.
Cosplay partout.
Ouais, c'est vrai. Donc vous allez présenter un spectacle qui va s'intituler, j'ai plus le nom devant moi, mince. Geek Music Show. Est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce spectacle? Je pense qu'il y a pas mal de surprises. Tu vas pas pouvoir tout nous dévoiler. Dans l'ensemble, il s'agit bien entendu d'un spectacle musical.
Tout à fait. Et musical et entièrement dédié aux jeux vidéo. Donc nous, Doremi, bien sûr, on sera là pour assurer la partie concert. Donc on va reprendre des musiques de jeux vidéo. Je peux citer quelques thèmes quand même.
Oui, bien sûr. Bah oui.
Précédemment, donc le thème de Ken de Street Fighter. Donc peut-être que c'est dans les esprits encore de chacun.
Ah bah oui. Je vais pas le chanter, mais je. Bon, si tu peux le chanter, tu peux le chantonner si tu veux.
Non, je vais éviter. Sinon, d'accord. On va faire des Final Fantasy, bien sûr. On va également jouer du World of Warcraft.
Ah, très bien.
Donc peut-être qu'il y en a qui ça parle, le thème de Murloc.
Ouais. Mais alors par contre, là, au niveau de l'orchestration, comment est-ce que vous avez fait pour parce que dans mon
de toute façon, toutes les musiques sont des arrangements de notre côté, dont on est obligé de réarranger.
Ouais.
C'est pas possible de reprendre exactement les instruments utilisés pour les compositions d'origine, mais par exemple pour Murloc, ce sera une formation plutôt rock, donc avec la composition classique, de la batterie, de la basse, des guitares, de la voix.
Ok.
Et est-ce que vous allez jouer un thème de Halo?
Le thème de Halo ne sera pas prévu, non.
Alors là, il est très déçu, Nico. Parce que je crois que c'est le seul qui connaisse en fait de thème de jeu vidéo.
C'est vrai qu'on a des demandes, même au sein de l'association. Il y a beaucoup de discussions autour des musiques qu'on devrait jouer. C'est vrai que c'est pas facile de faire un choix puisque.
On parle de spectacle. Hein. C'est pas annoncé comme étant un concert. Qu'est-ce qui fait que c'est un spectacle?
Parce que c'est parce qu'il y aura également Orgames qui va faire des démonstrations. Et là, j'insiste bien sur la démonstration et non pas simplement présenter le jeu. C'est pas de la présentation, parce qu'il y aura des joueurs de haut niveau qui viendront faire du high scoring.
Sur quel jeu?
Sur Just Dance, est sorti récemment par Microsoft, et qui cartonne apparemment.
Ouais, effectivement, oui.
Ils ont tenu informé du succès de ce jeu, et puis bien sûr de Dance Dance Revolution, qui est pour moi le symbole du jeu musical
Ouais, tout à fait.
Le jeu de danse où il y a 4 ou 8 flèches, ça dépend des versions, et où on doit taper sur les flèches au moment où elles apparaissent sur la barre de l'écran. Et donc voilà, ce sont des jeux de rythme, et à partir de ça, il y aura un petit mix entre la démonstration, le live. Il y aura des petites projections également d'extraits de jeux vidéo.
Et il faut savoir, je tiens à le rappeler, que les grands joueurs de Dance Dance Revolution et autres jeux musicaux de ce type, c'est quand même assez spectaculaire à voir. En soi, c'est déjà un spectacle.
Ah oui,
à
c'est,
part entière.
On voit ça, on se dit, oula, ouais, ça ouais. peut-être dans 120 ans, mais pas tout de
ouais,
suite.
Ouais, ouais, ouais.
donc. C'est pour ça qu'on tient à appeler cet événement un spectacle. C'est un spectacle qui reste quand même modeste, hein. On n'est pas là pour conquérir Broadway, hein. Mais voilà, je pense que c'est un petit spectacle qui mérite le détour et qui est adapté au format des conventions où il y a vraiment un enchaînement d'animation entre les concours de cosplay, les conférences.
Je rappelle quand même que je crois, hein, si je me permette, vous n'êtes pas payé pour faire ça. C'est totalement
bénévole.
Vous êtes des passionnés. Ne dis pas que c'est un petit spectacle. Vous faites ça avec vos moyens.
Oui.
Et voilà, non, c'est vrai, ça mérite qu'on vienne vous voir parce que justement vous êtes bénévole, passionné, que vous donnez à fond dans ce que
Exactement.
Vous faites, et rien que ça, il faut le souligner. Donc allez voir ce spectacle Geek Music Show à la Japan Expo. Est-ce que tu peux nous rappeler, nous dire, parce que la Japan Expo c'est sur 3 jours, premier
sur 4 jours.
4 jours pardon, du 1er au 4
jeudi
juillet
ou dimanche.
Voilà. Vous allez pas le faire tous les jours, si ?
Non, c'est uniquement le samedi.
D'accord.
Et ça durera 1h30, donc ce qui n'est pas négligeable en soi, ça reste un événement important du samedi. Ça sera à la scène principale, donc le samedi 3 juillet, et ce sera à partir de 12h30.
Et ce sera gratuit une fois que vous aurez
oui, voilà.
pénétré le
vous
lieu,
vous
bien entendu.
Vous avez accès au salon, et c'est là que c'est super intéressant de Japan Expo, c'est que vous pouvez assister au concert de votre choix, et au concert également au pluriel, et ainsi qu'à toutes les activités proposées.
Il y a une comparaison que je peux pas m'empêcher de faire, c'est Video Game Live, qui fait également, qui a fait 2 concerts, je crois, cette année et l'année dernière. Au Palais des Congrès de Paris.
Oui, exactement. Bah déjà Video Game Live donc j'y suis allé les 2 fois, c'était génial hein, on s'est tous éclatés, on y allait même entre membres de Doremi. Après je pense que le seul point commun qu'il y a entre Geek Music Show et Video Game Live, c'est que il y a une partie concerne les jeux vidéo. On peut pas assimiler tout.
Oui, la comparaison, on peut la faire sans la faire. Vous avez peut-être pas les mêmes moyens,
voilà,
c'est
voilà.
peut-être pas la même, voilà. Mais c'est vrai que la démarche est la même, la passion est là, et la musique de jeux vidéo est là.
Musique de jeux vidéo. Après, je suis pas sûr qu'on puisse comparer toutes les musiques, tous les concerts faits par des groupes de rock.
Est-ce qu'Abélia, tu avais une dernière question à poser à Nicolas Guinée au sujet de ce spectacle?
Non, mais je trouve ça intéressant de mettre en avant cette partie du jeu vidéo et de faire intervenir justement des joueurs pour la rendre un peu plus interactive et voilà, et j'espère que ça participera à cette idée du 10e art.
Alors ça se passe donc le 3 juillet 2010 au Parc des Expositions de Villepinte, c'est dans le cadre de la Japan Expo. Doremi Game & Company et Or Games vous présentent donc le Geek Music Show à la Japan Expo. Allez-y, si vous devez aller à la Japan Expo cette année, allez-y le samedi, vous pourrez profiter du spectacle. Je suis convaincu que ce sera...
En plus, c'est sur la scène principale, donc bon, il y a vraiment
une grande
capacité de personnes.
Ouais.
Vous pouvez même venir avec toute votre famille et tous vos potes, il y aura de la place. Hein.
Voilà, très bien. Merci Nicolas d'être venu nous parler de tout ça. On va terminer cette émission, si vous voulez bien, avec la chronique sortie de la semaine. Une chronique, je sais pas d'ailleurs, faut lui trouver un nom un petit peu plus sexy, j'ai pas trouvé autre chose que ça. Sortie de la semaine, je vais simplement vous énumérer 5 jeux qui sortent cette semaine, il y en a pas beaucoup plus de toute façon. Vous allez me dire si voilà, je vous donnais par exemple 70€, je le ferai pas, hein. Je les ai pas de toute façon.
Oh, allez.
Non. Si je devais vous donner 70€, je vous dis voilà, vous devez acheter un jeu, mais vous ne pouvez prendre que parmi ces 5-là. Ils viennent de sortir, c'est des nouveautés. À vous de me dire lequel, par défaut ou au contraire, vous seriez ravi de l'acheter, lequel vous achèteriez. Alors, premier jeu qui sort cette semaine, c'est Sam & Max épisode 3, The Soul Max's Brain, sur PC. C'est un jeu donc édité, développé par Telltale Games. Donc Sam & Max, vous connaissez, c'est le fameux point and click. On compte plus le nombre d'épisodes et de volets qui sont sortis depuis maintenant plus de 10 ans. Deuxième jeu, Lego Harry Potter, ça c'est tout support, ça sort sur toutes les consoles, hein, voilà, vous n'allez pas vous poser de questions. Donc Harry Potter, Lego, ça je vais pas vous expliquer ce que c'est, je pense que vous connaissez. Singularity sur PC, PS3, Xbox 360, un FPS qui a pas fait beaucoup parler de lui, qui utilise le temps, je crois, pour... voilà, il y a un truc avec le temps dedans, c'est un FPS, il y a un mode multijoueur. On en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, si ça fait partie de vos choix. Là, je suis donc maintenant sur le 4e jeu. Transformers, la guerre pour Cybertron. Donc ça, c'est sur PS3, Xbox 360, et je crois PC, et sur PC, oui. Qui propose un mode solo, un mode multijoueur. On a fait un Game Radio Online dessus avec Jarel. Lui n'était pas du tout emballé, moi j'étais beaucoup plus emballé, et j'ai le jeu.
Comme pour Section 8.
Voilà, j'ai le jeu, et je trouve que c'est un bon jeu, et je suis pas le seul, puisqu'apparemment des sites comme IGN lui ont mis un petit 9 sur 10, et je comprends pourquoi, on en parlera peut-être tout à l'heure. Dernier jeu, Doctor Who, The Adventure Games, épisode 2, Blood of the Cybermen. Voilà, alors ça c'est un jeu, c'est un petit peu particulier, c'est un jeu épisodique, un premier épisode qui était sorti, qui était gratuit, le deuxième épisode donc maintenant n'est plus gratuit, c'est sur PC, c'est en téléchargement, c'est pas un jeu donc qui a peut-être fait beaucoup parler de lui, mais ça sort cette semaine. Donc je répète, Sam & Max, Lego Harry Potter, Singularity, Transformers ou Doctor Who. On va commencer par notre invité, Nicolas, quel est le jeu que tu achèterais là si je te donnais 70€ et que je t'imposais de choisir parmi ces 5?
Quel choix-il ? Non, bah celui qui me parlerait le plus, ce serait peut-être Lego Harry Potter.
Ouais.
Harry Potter, Star Wars me plairait plus. Mais c'est vrai que c'est les Lego Star Wars ou Harry Potter, ils ont un esprit parodique que j'aime plutôt bien. Vraiment un ton décalé et je pense que je serais plutôt intéressé par celui.
Alors Lego, il y a eu, tu le disais, Star Wars, très très bon, excellent. Il y a eu Indiana Jones, deux épisodes Indiana Jones et le Batman plus récent encore, vraiment génial. J'aime beaucoup moi aussi les Lego.
C'est sérieux, tout à fait. Complètement décalé.
J'avoue que j'aurais pris la même parce que moi je me rappelle du tout premier jeu Lego qui était sorti sur PlayStation, Lego Racer, où tu pouvais construire ta voiture de tout début en faisant des trucs vraiment trop marrants. Et
à l'époque, c'était très bien. Hein. J'en ai gardé un très bon souvenir.
Ouais, et je crois d'ailleurs que c'était le premier jeu Lego.
Ouais.
C'est dommage d'ailleurs que Isaac ne soit pas avec nous parce que peut-être qu'il aurait pu nous donner deux trois trucs justement sur la façon dont les personnages sont animés, le fait qu'on donne vie comme ça à des petites figurines en plastique. C'est ce qui est au départ assez impressionnant, c'est de les voir enfin en mouvement, scénarisés, bouger. Et puis effectivement le fait que le jeu reprenne les grands classiques, que ce soit du cinéma ou oui c'est ça, c'est les grands classiques du cinéma, ça le fait carrément. Lego Harry Potter, très bien. Abelia, toi, si tu devais choisir un jeu parmi ces 5?
Eh bien moi, comme je l'ai annoncé au départ, j'aime les jeux d'aventure, donc ce serait Doctor Who.
Ah bon?
Parce que je suis fan de la série et donc c'est un épisode, donc l'épisode 2 qui reprend des éléments de la série comme les robots cyborgs et je pense que voilà, pour les fans de la série et des jeux d'aventure, je pense que c'est le jeu de la semaine.
Ah oui, carrément, d'accord. Ok, Doctor Who, c'est assez inattendu. Singularity, par contre, alors là, je suis assez surpris, Nico, toi qui es quand même très FPS, plutôt FPS d'ailleurs. C'est pas un FPS vers lequel tu irais a priori.
Non, j'irais plutôt vers un autre FPS qui sort demain, mais vu que tu l'as pas mis dans la liste.
Ah bon ?
Je peux pas y aller. Ouais.
C'est quel jeu ?
C'était un jeu sniper en fait qui sortait, et vu que j'adore. Me cacher dans la brousse.
D'accord, je vois le jeu. D'accord. Tu es sûr qu'il sort demain? Quel est son nom?
Alors, son nom, là, j'ai un petit trou de mémoire.
Non, mais je vois le jeu dont tu parles. Il y a eu une vidéo qui était diffusée récemment. Ah oui, effectivement, ça sort peut-être cette semaine.
Ça sort demain.
Moi, je me permets quand même de conseiller Transformers, la guerre pour Cybertron. Je sais, ça paraît débile. Les Transformers, on se dit, ouais, c'est pas terrible, c'est pour les gamins. Souvenez-vous quand même qu'il y a eu deux films. Un premier film que moi j'ai trouvé vraiment très sympathique, effectivement plutôt tout public, mais avec des effets spéciaux extrêmement novateurs à ce moment-là, et ça en mettait quand même plein la gueule. Le deuxième était pas trop mal non plus, Transformers. Là, le jeu vidéo, pour une fois, la démo m'avait plu. Le jeu est vraiment sympa. Il propose, je tiens à le dire, un mode solo assez riche. Il y a à peu près 10 chapitres décomposés en plusieurs sections. Il y en a pour 12, 13, voire peut-être 15 heures de jeu. Donc c'est assez conséquent quand même pour un mode solo. Tout est jouable en coopération à 3 en ligne. Donc il y a un mode coop. Et en multijoueur, il y a énormément de choses, beaucoup de modes de jeu. Il y a même un mode horde. Et le jeu est vraiment beau. Il est surprenant. C'est vraiment, je vous promets, si jamais vous osez l'acheter, parce qu'il faut vraiment oser, et que vous passez outre le fait que ce sont des Transformers, vous mettez dans la tête que vous êtes dans un jeu de science-fiction avec des mechas, vous passez vraiment un agréable moment. Voilà.
Moi, le problème qu'a ce titre, c'est qu'il traîne une image. Voilà, il a une avec image. Les deux précédents jeux de assez triste.
Non, mais c'est même, c'est vrai que quand tu joues, par moment, t'as l'impression que ça fait peut-être plus référence au dessin animé. Tu te dis, tiens, il y a les répliques des robots, c'est un peu bizarre, quoi. Tu vois, c'est Cybertron, quoi. C'est un peu space. Mais finalement, si tu passes outre, ça le fait carrément. C'est un jeu qui est nerveux. La prise en main est géniale. Tu pilotes ton robot, mais les doigts dans le nez, c'est vraiment très agréable à jouer. C'est une très bonne surprise, je le répète, et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur Internet autour de ce jeu. Il y a un engouement assez surprenant pour ce titre, il y a énormément de monde en ligne, Le jeu est très agréable à jouer. Voilà, moi c'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait aborder dans cette émission. On en termine donc avec les sorties, ça c'est terminé. Merci donc à Isaac qui est déjà plus là avec nous ce soir, qui est déjà parti pour son intervention tout à l'heure. On a parlé avec lui donc, je le rappelle, de Solid Anime et de la motion capture, la mocap. Je vous invite à nouveau à aller sur le www.solidanime.com pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font. Et puis Nicolas Guinet, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette émission.
Si je peux rajouter juste un dernier petit, une petite information. Donc sur notre site, on a eu l'accord tout simplement, l'accord de quelques compositeurs de musique de jeux vidéo et pas des moindres, hein, comme Tommy Tallarico, Christopher Tin, Tim Wright, donc lui c'était Wipeout, et Kirill Pokrovski. Et on propose une petite médiathèque où vous pouvez écouter des bandes originales de jeux vidéo en libre écoute, et donc c'est sur le site de Doremi.
Ah, c'est cool ça.
Très bien. Donc je ne dirais pas que, contrairement à vous, sur Game Radio, on diffuse peut-être beaucoup plus de musique, mais totalement de façon totalement illégale, sans avoir demandé l'accord de personne. Mais bon.
Vous savez, si on doit déclarer ça, parce que à la SCAM, je crois, non.
La SACEM et d'autres organismes, je pense que nous, on fermerait la porte tout de suite. Hein. C'est pas possible.
Non, mais bon, nous, de toute façon, les bandes originales ne sont pas intégrales. Hein. Vous n'avez pas accès à toutes les musiques de l'album. Mais vous avez quelques musiques de ces bandes originales en libre écoute avec une petite biographie du compositeur.
Et de toute façon, on fait la promotion du jeu vidéo, on fait la promotion des musiques de jeux vidéo.
Même
voilà, on
radio,
sert à ça. On est
voilà. La musique de jeux vidéo.
Tout à fait. Merci. En tout cas, Nicolas, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle qu'on vous retrouve à la Japan Expo le 3 juillet 2010.
Exactement. Et le dimanche pour un petit concert, c'est à 17h15 en salle musique et karaoké, ça s'appelle. Là, c'est un plus petit concert, musique de jeux vidéo et de dessins animés, mais ce sera une ambiance plus conviviale.
Très bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir dans cette émission, merci. Je terminerai en passant un petit message, pas personnel, mais de la part de Michael Mainmaster, qui est un fidèle auditeur de Game Radio, qui est intervenu dans un ou deux podcasts, il est au Japon, il rentre bientôt en France, vous le connaissez peut-être. Michael voulait souhaiter, je le fais parce qu'il me l'a demandé, souhaiter un bon anniversaire à Sla, ou Sera, c'est une japonaise, je sais pas exactement comment on le prononce. Il voulait aussi passer un grand merci à Yurina, à Minori, à Coco, à Kuria, ainsi qu'à toute l'équipe.
C'est compliqué.
Ouais, ben, on est au Japon, là, hein, ça fait voyager un peu. L'équipe Mei Dreamin San, voilà, et à très bientôt, il leur dit à très bientôt. C'est donc de la part de Michael. Et puis moi, Michael, je te souhaite un bon retour en France. J'espère que ce sera pas trop difficile pour toi de nous rejoindre, parce que là, t'as un an au Japon, vous imaginez, revenir chez nous, ça va être assez
ça compliqué. Fait un changement.
Ça va faire un sacré changement. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir suivi en direct, si vous êtes encore en train de nous écouter, éventuellement aussi de nous écouter en téléchargement, ou sur le site, dans le podcast. Merci beaucoup de soutenir Game Radio, laissez des commentaires, n'hésitez pas, téléchargez-nous, fréquentez le forum, venez nous voir souvent, ça nous fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. À Abelia, très bien.
Bah, écoute, oui, merci à vous.
C'est ta première, t'étais particulièrement discrète, mais
oui.
Je pense que ça ne fera que s'améliorer. On te retrouvera dans les prochaines émissions et on aura peut-être le temps aussi de les préparer un peu plus. J'avoue que cette semaine, ça a été un petit peu compliqué. On sort de l'E3, il y a eu la fête de la musique. L'organisation de cette émission a été un petit peu bousculée. Nico, merci beaucoup d'avoir
merci
été là aussi
toi.
Ce soir. À très bientôt. À bientôt sur Game Radio. Ciao.
Au revoir tout le monde.
Game Radio.